L'actualité francophone avec RFI, avec Radio-Télévision Suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et avec France Inter. Au programme aujourd'hui, une campagne de publicité sexiste qui fait polémique en Belgique. On verra aussi comment les Suisses s'inquiètent de la hausse des primes d'assurance maladie. Au Canada, un accord avec Netflix qui en dit long sur la politique du gouvernement fédéral à propos de l'industrie culturelle canadienne. Et puis on verra également dans quelles conditions les ressortissants du Tchad seront bientôt persona non grata aux États-Unis. Enfin, à propos de la francophonie, eh bien on verra comment l'écriture inclusive fait polémique en ce moment en France. C'est l'actualité francophone, bienvenue à tous. En Belgique, Anina Meus, on le croyait mort, mais il est bien vivant. L'homme qui a revendiqué les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles a refait surface.
Oui, Tariq Jadhaoun est un homme de confiance de Daesh, c'est un combattant déterminé. C'est lui qui a été choisi par Daesh pour apparaître sur la vidéo qui revendique les attentats de Bruxelles. Ce djihadiste de 28 ans, originaire de Verviers, était très actif sur les réseaux sociaux. Il apparaît encore en mai pour vanter les nouvelles armes dont dispose alors l'État islamique. C'était peu avant la prise de Mossoul, mais en août, après la prise de Mossoul, il est donné pour mort, à tort. Il est vivant, mais désormais hors d'état de nuire. Il est détenu dans un camp en Irak, où il a longuement été interrogé par les services de sécurité.
Charlotte Hydrac, l'homme de la semaine pour RFI, c'est un réfugié congolais devenu nageur en eau libre en Afrique du Sud.
Arafat Gatabazi, 22 ans, il fuit la RDC en 2012, direction Le Cap. C'est là qu'il apprend à nager dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Et depuis, il se lance des défis. Le prochain, ce sera de nager entre l'île de Robben Island et le quartier de Sea Point, au Cap. 12 km, 3h30, 4h de nage, le froid, les méduses aussi. Alors pourquoi s'infliger ça? Arafat Gatabazi, aujourd'hui développeur web, collecte des fonds pour une association et c'est une manière pour lui de changer l'image des réfugiés.
Ah, au Canada, Benoît Hédet, vous aimez beaucoup nous parler de cinéma. Eh bien, encore une fois, hein, votre personnalité cette semaine, c'est un réalisateur qui connaît pas mal de succès à Hollywood.
Oui, cette fois-ci, c'est Denis Villeneuve, réalisateur québécois. Son prochain film, Blade Runner 2049, sort sur les écrans la semaine prochaine. C'est une suite très attendue du film culte des années 80. Denis Villeneuve est en train de s'établir comme une valeur sûre à Hollywood. Son dernier film, Arrival, avait récolté plusieurs nominations aux derniers Oscars. Les premières critiques de Blade Runner 2049 sont très élogieuses, ce qui augure bien en vue des prochains Oscars.
En Suisse, Joël Marchetti, on va parler de football. La personnalité de la semaine en Suisse s'appelle Christian Constantin.
Oui, Christian Constantin, figure incontournable du football suisse, président du FC Sion en Valais. Christian Constantin est connu pour son caractère entier, qui hésite rarement à limoger ses entraîneurs lorsqu'il n'est pas content. La semaine dernière, à la fin d'un match, Christian Constantin s'en est pris physiquement au consultant d'une chaîne de TV et ancien sélectionneur national Rolf Fringer, qui avait notamment critiqué le narcissisme de Christian Constantin. Le président du FC Sion alors bondit sur Rolf Fringer pour lui donner gifle et coup de pied. Depuis, cet épisode qui a fait le tour du web et de tous les médias ici, eh bien c'est la polémique dans le milieu du football. Certains estimant que Christian Constantin a franchi la limite de l'acceptable. Christian Constantin, qui, totalement passionné de football, garde un certain capital sympathie auprès d'une partie du public.
En France, une statue de 700 kilos à l'effigie de Brigitte Bardot. C'est le cadeau d'anniversaire de la ville de Saint-Tropez à l'actrice qui fête cette semaine ses 83 ans. Brigitte Bardot est celle qui a rendu célèbre ce village de Saint-Tropez dans les années 50. Ce qui n'était à l'origine qu'un modeste village de pêcheurs est désormais célèbre à travers le monde. La statue de 2,50 m de haut est installée en face d'un autre monument célèbre de la ville, la gendarmerie de Saint-Tropez, popularisée dans les années 60 par les films incarné par Louis de Funès. En Belgique, Anina Meus, voilà une campagne de publicité sexiste. Elle a créé la polémique cette semaine. Cette campagne propose à des jeunes femmes de rencontrer des hommes fortunés et plus âgés.
Oui, l'affiche controversée incite les étudiantes à améliorer leur style de vie en sortant avec des sugar daddies, des papas gâteaux. Elle a en plus été placée sur des remorques de camions devant des universités et des écoles supérieures. Le propriétaire du site de rencontre a tout fait pour toucher son public cible. L'affiche ne parle pas de sexe ou d'argent, mais un arrière-fond coquin laisse peu de doute sur la nature des rencontres proposées. La réprobation a été immédiate sur les réseaux sociaux de la part des universités, des associations d'étudiants, des ministres et autorités concernés. La justice s'est mise à rechercher le propriétaire du camion, puis le propriétaire du site de rencontre. Les mots et les plaintes se sont succédés. Sexisme, racolage, incitation à la débauche, prostitution. on aura moins parlé de la précarité qui pousse certaines étudiantes à se prostituer. Quant au propriétaire du site, lui, il est sûr de son bon droit. Il dit proposer un service légal en ajoutant que chacun a le droit de ne pas l'aimer. La publicité pour le site de rencontre a finalement été retirée, mais rarement une campagne publicitaire n'aura fait autant parler d'elle.
En Afrique, avec RFI, Charlotte Hydrac, l'actualité de la semaine francophone, ce sont les ressortissants du Tchad qui seront bientôt persona non grata aux États-Unis.
Le Tchad, effectivement, nouveau venu sur la liste du travel ban américain visé par un décret du président Trump. En clair, à partir du 18 octobre, les Tchadiens ne pourront plus se rendre aux États-Unis, sauf dérogation, ce sera du cas par cas. Motif, sécurité nationale, manque de coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Pour N'Djamena, ça a été un coup de massue, Madeleine Alingué, la porte-parole du gouvernement tchadien.
Le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Motif qui contraste avec les efforts et les engagements constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme aussi. Le gouvernement tchadien appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations qu'entretiennent les deux pays.
Alors, il y a eu une séance d'explication à N'Djamena avec l'ambassadrice américaine. En fait, le problème semble plutôt administratif, avec des formalités non remplies, des défaillances dans la transmission d'informations au consulat américain. Le Tchad, en tout cas, a reçu le soutien de Paris. La France souligne son rôle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et demande à Washington de revenir sur sa décision. Même appel du groupe du G5 Sahel qui lutte contre les djihadistes.
Cette semaine en Suisse, Joël Marchetti, la publication des nouvelles primes d'assurance maladie a, comme chaque année, suscité de nombreuses critiques.
Oui, c'est un rituel dans la vie de chaque Suisse. À chaque automne, l'annonce des augmentations de primes pour l'assurance maladie obligatoire suscite critiques et propos amers. Maîtriser les coûts de la santé et stabiliser un système délicat, c'est un défi qui occupe de nombreux pays. La Suisse ne fait pas exception. Ici, année après année, les primes augmentent. Pour l'an prochain, ce sera donc plus 4% en moyenne par adulte. Cette augmentation est supérieure à l'augmentation des coûts de la santé. Et justement, la maîtrise des coûts de la santé est un véritable casse-tête pour les acteurs du système, politiques, médecins, assureurs, hôpitaux. Du coup, un certain ras-le-bol se fait sentir auprès d'une partie des assurés. Joy Demmelmeister est responsable politique de la santé à la Fédération romande des consommateurs.
Moi, je me sens acculée, mais alors je pense que je suis de loin pas la seule. Et quand on est acculé, eh ben, je pense qu'on trouve encore plus d'énergie pour rebondir, pour dire non mais là, ça va, ça suffit, il faut faire quelque chose, on en a marre de ce système-là.
Voilà, ça suffit, entend-on. Joël, en Suisse, le système de santé coûte cher, mais au moins, est-il efficace ?
De nombreuses études placent la Suisse parmi les meilleurs pays au monde en matière de santé. Une position certes relativisée par certains acteurs du système, mais les Suisses aiment avoir une offre médicale et hospitalière de première qualité et proche de chez eux. Ils le montrent souvent lorsqu'ils votent sur ces questions, ce qui, naturellement, a aussi un coût.
On va au Canada à présent avec vous, Benoît Audet. Le gouvernement canadien a conclu une entente avec Netflix, le géant américain de la diffusion de productions en ligne. Et ça en dit long donc sur la vision qu'a le gouvernement fédéral sur l'avenir de l'industrie culturelle canadienne.
Oui, il a signé une entente qui va faire en sorte que Netflix va investir 500 millions de dollars au cours des 5 prochaines années dans la production de contenus originaux au Canada. La compagnie s'est aussi engagée à créer ici même une société pour produire du contenu canadien, ce qui est une première. En contrepartie, le Canada n'imposera pas de taxes aux géants américains, la fameuse taxe Netflix, comme c'est le cas ailleurs dans d'autres pays. Malgré tout, la ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly, estime qu'il s'agit d'une bonne affaire pour le Canada.
Ce sont de très bonnes nouvelles et je suis profondément convaincue que nous allons avoir de l'excellent contenu francophone qui va être soutenu par Netflix. Et je pense qu'on peut être extrêmement fiers de la volonté d'une compagnie étrangère d'investir dans notre contenu parce que ça démontre à quel point notre contenu est de qualité.
Alors, on vient d'entendre la fierté de cette ministre canadienne, mais Benoît Audet, cet enthousiasme n'est pas partagé par tous dans le milieu culturel.
Non, des producteurs de contenu estiment qu'on fait la part belle à Netflix en ne taxant pas ses activités au Canada. Ici, on est confronté au même problème qu'ailleurs. Les gens n'ont jamais eu accès à autant de contenu, mais la question demeure entière. Comment faire en sorte que ceux qui produisent ces contenus soient payés à leur juste valeur?
En France, il y a débat en ce moment sur la féminisation de l'orthographe pour mieux lutter contre les préjugés. Favoriser l'égalité homme-femme dans l'orthographe, c'est la vocation de l'écriture dite inclusive. Écrire les mots en même temps au féminin et au masculin dans la même phrase. Par exemple, si vous dites « nous sommes fiers », eh bien l'écriture inclusive écrit le mot « fier », F-I-E-R, point. E accent grave, R-E-S. Plus question donc de laisser le masculin l'emporter sur le féminin. Les deux genres doivent apparaître côte à côte dans le même mot. C'est en tout cas le parti pris d'un nouveau manuel scolaire d'histoire à destination des élèves de 8 ans en France. Or, pour ces détracteurs tristes, cette écriture inclusive, c'est une aberration, une usine à gaz. Pas du tout, c'est une nécessité, rétorquent les défenseurs, ceux de l'écriture inclusive qui dénoncent une langue française phallocentré. C'est ce que dit notamment le docteur en sciences de la communication Raphaël Haddad.
On a un mythe par rapport à la langue. On pense que la langue ne peut pas être remise en cause. Il y a d'ailleurs des institutions qui entretiennent cette légende. Je pense à l'Académie française notamment. En réalité, on utilise une langue qui est une langue fondamentalement phallocentrique qui vient contredire les objectifs sociaux qu'on se donne pourtant. On propose de mettre à jour le langage pour pouvoir faire progresser véritablement l'égalité.
Et donc, peut-être bientôt des élèves français qui apprendront les fables de La Fontaine sous un nouveau jour. Maître, maîtresse corbeau, sous un arbre perché, tenait dans son bec, etc., etc. Voilà pour le tour d'horizon de la semaine francophone. Merci à tous les quatre. Le prochain rendez-vous, ce sera dans une semaine, au même endroit et à la même heure.